Vous avez faim, ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti. Présentée par Frédéric.
Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Tous à table. Vous le savez, si vous êtes fidèle à cette émission, chaque semaine, je vous parle d'alimentation avec, comme mot d'ordre, de bien manger et de manger sain. J'essaye de mettre en avant les bons produits, celles et ceux qui les cultivent, qui les distribuent et qui les cuisinent pour notre plus grand plaisir et pour le régal de nos papilles gustatives. Et de par mon parcours personnel, j'ai tendance à mettre en avant la bonne cuisine traditionnelle, voire même la cuisine gastronomique. Mais cette semaine, j'ai choisi un tout autre sujet, celui de l'abondance, d'une société de consommation à outrance qui nous amène à l'excès. Ensemble, nous allons explorer un sujet fascinant, l'évolution des excès alimentaires à travers les âges. Et pour ce faire, je vous propose de comparer deux phénomènes apparemment très éloignés, mais étonnamment similaires, les orgies alimentaires de la Rome antique et les buffets à volonté d'aujourd'hui. Ces deux pratiques révèlent beaucoup sur notre rapport à la nourriture, au plaisir et à la société dans laquelle nous vivons. Bien que séparées par des siècles d'histoire, ces orgies alimentaires révèlent une fascination humaine pour l'abondance et le plaisir sensoriel. Ces excès, qu'ils soient le reflet d'une société d'élite ou d'une consommation de masse, soulèvent des questions profondes sur notre rapport à la nourriture et sur ce que cela dit de nos valeurs. Préparez-vous à faire un voyage dans le temps pour cette première partie d'émission et imaginez-vous convives d'un grand banquet de la Rome antique. Commençons donc par un retour en arrière, dans le temps et dans l'histoire. Il y a près de 2000 ans, à l'époque de la Rome antique, les orgies alimentaires, symboles de décadence et de luxe, étaient des banquets où la surabondance de nourriture et de boissons ne connaissait aucune limite. Ces festins somptueux étaient souvent organisés par les élites pour afficher leurs richesses, leur pouvoir et leur capacité à offrir à leurs convives des expériences culinaires uniques. Dans le Satyricon, roman du 1er siècle attribué à Pétrone, l'un des banquets les plus mémorables de l'Antiquité est organisé par le riche affranchi Trimalcion. Une débauche de nourriture extravagante et de boissons y défile jusqu'à l'écœurement, dans une atmosphère exubérante, voire grivoise. Quant au luxueux banquet de certains empereurs, la licence sexuelle y avait libre cours d'après Suétone. En outre, l'empereur Tibère ou le philosophe Sénèque n'ont pas manqué de déplorer les excès de leurs contemporains en matière de plaisirs terrestres. Les auteurs chrétiens antiques se font l'écho de telles accusations afin de mieux mettre en lumière le dérèglement moral des païens. Saint Pierre dénonce ainsi dans une lettre l'idolâtrie, l'ivrognerie et les excès de la table. La nourriture dans ces banquets de la Rome antique n'était pas seulement abondante, elle était également sophistiquée et exotique. Les hôtes recherchaient constamment des mets rares et extravagants, comme des langues de flamant rose, des pans farcis, ou des plats multi-étagés où chaque ingrédient était un symbole de richesse. Les banquets romains se déroulaient en plusieurs étapes, avec la gustatio, le plat d'entrée, souvent à base de légumes et d'œufs, la prima mensa, le plat principal avec de la viande, du poisson et des accompagnements variés. Et enfin, la seconda mensa, le dessert qui incluait des fruits, des pâtisseries et du vin. Il ne fait aucun doute que de somptueux festins aient été organisés à Rome par certains empereurs, comme Caligula, Claude, Néron et Vitellius, ou encore plus tard, Elagabale. Mais les textes antiques les évoquent toujours dans un but moral. Il s'agit notamment, pour des auteurs comme Suétone et Tacite, de condamner des excès de gloutonnerie et de luxe vus comme indécents. Selon l'idéal romain, un bon chef doit savoir contrôler son corps, qu'il s'agisse de désirs alimentaires ou sexuels. Les mauvais empereurs ont d'ailleurs une fâcheuse tendance à associer ces deux plaisirs charnels. Selon Suétone, au cours de ses dîners, Caligula faisait l'amour avec les femmes de ses invités, ou encore avec ses propres sœurs, au milieu des plats et devant tout le monde. Néron, quant à lui, se faisait servir en public par des courtisanes et des joueuses de flûte, dont on imagine bien que la fonction n'était pas uniquement de jouer de leur instrument de musique. Mais si ces débauches sont évoquées avec tant d'insistance, c'est justement parce qu'elles ne constituaient pas la norme dans le monde romain. Les orgies impériales, toujours dénoncées, et sous certains empereurs seulement, ne concernaient qu'une part infime de la population. Il ne s'agissait donc nullement d'une tradition propre à la société romaine dans son ensemble. Il en est de même du vomissement, qu'on associe souvent à ces festins. Les médecins avaient coutume d'enfoncer une plume dans le gosier des convives qui souffraient d'indigestion. Mais cette pratique reste limitée aux individus de haut rang et cantonnée à quelques exemples rapportés par les sources des écrits de l'époque. C'est au contraire la simplicité alimentaire, voire la frugalité qui caractérisait l'Empire romain. L'immense majorité de la population se nourrissait surtout de légumes et de céréales, sous la forme de bouillies et de galettes, ou encore de fruits comme les figues, les pêches ou le raisin. C'était donc un régime très végétal qui prédominait à l'époque romaine. Les soldats, privilégiés par rapport à la moyenne, y ajoutaient de la viande séchée. Le vin était très répandu, c'était une boisson épaisse que l'on mélangeait avec de l'eau, parfois chaude. On y mettait volontiers du poivre ou du miel. La posca, très populaire à l'époque, avait un véritable goût de vinaigre. Seule une minorité de riches consommait avec ostentation, non par goût des aliments, mais d'abord pour affirmer leur appartenance à l'élite. L'alimentation permet aussi de mieux saisir les mentalités de l'époque, en particulier celles des membres les plus aisés de la société de la Rome antique. Manger n'est pas un acte anodin. Hormis l'aliment, le mangeur consomme aussi du symbole, construit autour d'une hiérarchie normée. Un aliment n'est pas bon uniquement pour ses critères gustatifs, mais aussi pour ce qu'il révèle sur l'identité du consommateur. Ainsi, le dîner s'insère dans un esprit de compétition entre les membres de l'élite. C'est à qui dépensera le plus d'argent et offrira les mets les plus inattendus ou les plus exotiques. Les textes antiques évoquent des plats étonnants, comme notamment des crêtes de coq, des langues de paon, des têtes de perroquet, des vulves de truie, des langues ou des cervelles de flamant rose, entre autres. Mais l'aliment le plus prestigieux au premier siècle de notre ère était sans conteste le surmulet, ou rouget barbet, un poisson dont le prix pouvait atteindre plusieurs milliers de sesterces. Nous connaissons les recettes romaines grâce au livre d'Apicius, L'art culinaire, mais nous savons malheureusement peu de choses sur la vie de ce grand cuisinier qui vécut au 1er siècle sous l'empereur Tibère. On raconte qu'il se suicida lorsqu'il découvrit qu'il n'avait plus assez d'argent pour organiser de nouveaux banquets. Les Romains se mettaient à table 3 fois par jour, d'abord pour un petit déjeuner très simple, puis pour un déjeuner rapide, et enfin pour le dîner ou cena, principal repas de la journée. La cena était constituée d'une entrée, d'un plat principal et d'un dessert, successivement servi, du moins pour les plus riches, dans le triclinium, salle à manger où hommes et femmes dînaient ensemble, étendus sur des lits disposés autour d'une table basse. Ces repas, en position couchée, étaient assez salissants, on mangeait avec les doigts, sauf les œufs pour lesquels on disposait de cuillères. Des aliments atterrissaient sur les mosaïques qui ornaient le sol. Souvent, les convives jetaient volontairement à terre les os, coquilles de mollusques ou arêtes de poissons qu'ils venaient de retirer de leur bouche. Un geste vu comme un rite pour la rémission des péchés. Les restes de nourriture tombés au sol étaient considérés comme une offrande faite aux défunts. Les orgies alimentaires n'étaient pas seulement des moments de gloutonnerie. Elles avaient une dimension culturelle et symbolique. Elles permettaient de célébrer les dieux, de marquer des événements importants ou simplement de renforcer les liens entre les convives. Dans certaines occasions, ces banquets pouvaient prendre une tournure plus spirituelle, où la nourriture était offerte en hommage aux dieux avant d'être consommée. Ces événements reflétaient également la hiérarchie sociale, où les plus puissants et les plus riches pouvaient se permettre des mets rares et coûteux, tandis que les plus pauvres étaient réduits à l'observation ou à des portions plus modestes. Le parcours se termine logiquement aux latrines, les WC des Romains, bien identifiés sur plusieurs sites archéologiques. L'étude des coprolites, c'est-à-dire des restes d'excréments minéralisés retrouvés par les fouilleurs, a révélé la mauvaise hygiène des Romains, qui ne se lavaient guère les mains avant de tremper leurs doigts dans les plats. En témoigne la présence très fréquente de vers intestinaux dans leurs déjections. Jusqu'à nos jours, la littérature, la peinture ou les péplums se sont emparés de ces motifs pour livrer une image déformée, voire fantasmée du quotidien des Romains, comme le tableau « Les Romains de la décadence » de Thomas Couture, datant de 1847, ou le film « Quo Vadis » réalisé par Mervyn Leroy en 1951. Il est indéniable que des excès dans la consommation alimentaire, combinés à un relâchement moral, aient pu avoir lieu du temps de la grande histoire de Rome. Toutefois, le discours moral des textes antiques met en exergue le comportement d'une minorité pour le projeter sur l'ensemble de la société. De même, dans le cas des biographies impériales, le rapport au plaisir permet de brosser le portrait du bon ou du mauvais prince de façon stéréotypée. En réalité, les normes morales qui pèsent sur le citoyen romain incitent à la mesure et à l'austérité. Plusieurs auteurs, comme Pline le Jeune ou Juvénal, vantent les mérites d'une table sobre qui n'empêche en rien la convivialité. Une nourriture frugale apparaît comme un moyen de renouer avec l'idéal du citoyen des débuts de la République, attaché à sa terre et à la défense de sa cité. Quant aux médecins, ils prônent également l'adoption d'un régime alimentaire adapté et mesuré, garant de la bonne santé et d'un esprit sain dans un corps sain. Il faut enfin rappeler que le terme « orgie » désigne avant tout une cérémonie religieuse dionysiaque où l'ivresse permet d'entrer en contact avec la divinité. Or, bien des traductions françaises des textes antiques emploient ce terme là où le latin et le grec désignent, eux, tout simplement un banquet. Après la pause musicale, dans la deuxième partie de Tous à table, je vous propose de faire un parallèle avec les buffets à volonté, cette nouvelle forme de démesure que nous trouvons aujourd'hui bien souvent dans les clubs de vacances ou dans d'immenses restaurants en périphérie de nos villes. Elle s'appelle Doria Day. Cette jeune auteure, compositrice, interprète, découvre la musique dans son enfance de façon originale, en Belgique, avec sa grand-mère, en participant à des animations musicales dans les maisons de retraite. Touchée par le virus de la musique et des échanges qu'elle procure, elle perce grâce aux réseaux sociaux et se produit maintenant sur de nombreuses scènes musicales. Voici son titre, Question.
J'ai pas de mode d'emploi. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce que je dois faire? J'avance en croisant les doigts. Faites que mes pieds ne glissent pas de la terre. Je flâne sans me poser de questions. Mais j'ai aucune idée d'où je dois aller. Je dois pas me faire repérer. Je sais pas ce que je fous là. Il manque un paquet d'éléments pour comprendre le moment. Mais les gens autour ne s'inquiètent pas. Non. Je flâne sans me poser de questions. Aïe aïe aïe. Je fais comme si, je fais comme si. Mais je me noie dans un tas de questions. Close, 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 close. Perdu dans ce monde.
À table, la suite avec aujourd'hui les festins débridés depuis les orgies de la Rome antique jusqu'au buffet à volonté que nous connaissons de nos jours. Après une présentation des grands banquets historiques de la période romaine, passons maintenant à notre époque contemporaine. Aujourd'hui, les orgies alimentaires ont pris une autre forme, celle des buffets à volonté. Que ce soit dans les restaurants, les hôtels ou sur les navires de croisière, ces buffets sont devenus des lieux où la quantité prime souvent sur la qualité. C'est la sortie populaire par excellence. Au milieu des années 2000, on les a vus naître dans les zones commerciales, dans ce que l'on appelle les boîtes à chaussures, ces restaurants où l'on peut manger à volonté. Souvent asiatiques, ils se sont peu à peu démocratisés et on en compte maintenant presque 10 000 en France. Récemment, les réseaux sociaux ont donné un coup de popularité à la formule du buffet à volonté, avec des youtubeurs en pagaille qui se filment engloutissant des montagnes de nourriture devant des millions d'internautes ravis de voir quelqu'un se repaître pour les divertir. On y vient pour trop manger, autant que pour s'offrir une parenthèse hors du temps. Et une fois arrivé tôt, au tout début du service, si vous ne voulez pas vous faire languir durant de longues minutes au bout d'une file d'attente interminable. Nous autres, clients, pour un prix fixe et abordable, pouvons consommer autant de nourriture que nous le souhaitons sans aucune limite, si ce n'est celle que nous autorise notre estomac. J'ai testé pour vous un nouveau concept de buffet à volonté récemment ouvert dans notre agglomération, et cette expérience m'a non seulement incité à vous proposer ce sujet d'émission, mais surtout énormément interrogé sur ces concepts de restauration. Le buffet à volonté repose sur l'idée d'abondance, tout comme les orgies romaines. Mais au lieu de plats exotiques et rares, ce sont souvent des plats simples et en grande quantité qui nous sont proposés. On ne vient pas ici pour bien manger, ni pour les goûts ou les saveurs des plats proposés en abondance, mais simplement pour beaucoup manger, à pas cher, avec une impression de liberté exacerbée. On y trouve un large éventail de choix. Des salades, des charcuteries, quelques fruits de mer pas chers, des viandes, quelques poissons, des pâtes, des féculents, des pizzas, des desserts et bien plus encore. Mais cette abondance est-elle vraiment synonyme de plaisir ou est-elle devenue une simple réponse à la quête incessante du « plus pour moins cher » qui nous guide dans ces temps d'inflation ? Les orgies alimentaires romaines et les buffets à volonté d'aujourd'hui partagent une caractéristique commune. Ils sont le reflet d'une société en quête de satisfaction immédiate et de plaisir sensoriel. Mais alors que les banquets romains étaient réservés à une élite fortunée, les buffets à volonté démocratisent l'accès à l'excès de nourriture. À Rome, la surabondance était un marqueur de statut social et un moyen de renforcer les liens sociaux dans un cadre de pouvoir. Aujourd'hui, les buffets de nos zones commerciales et industrielles répondent à d'autres besoins, celui de rentabiliser son argent, de satisfaire une envie de variété et parfois même de combler un vide émotionnel. Ils sont aussi le reflet d'une société de consommation où l'on est encouragé à prendre plus que ce dont on a réellement besoin. Ce parallèle entre les orgies romaines et les buffets à volonté montre que l'excès alimentaire a toujours été un moyen pour les sociétés de manifester quelque chose de plus profond. Pour les Romains, c'était une question de pouvoir et de prestige. Aujourd'hui, c'est plutôt une manifestation du modèle économique dans lequel nous vivons, où la consommation est une valeur en soi. Les buffets à volonté permettent à chacun de vivre une expérience d'abondance, même si celle-ci est souvent plus symbolique que réelle. Ces buffets sont souvent critiqués pour ce qu'ils représentent, une surconsommation, un gaspillage alimentaire considérable et parfois une approche malsaine de la nourriture. Mais pourquoi ces nouveaux restaurants XXL peuvent-ils proposer un tel concept ? Tout d'abord, les assiettes sont plus petites que dans un restaurant classique, nous obligeant ainsi à nous resservir au fur et à mesure du repas. Les familles sont les clients les plus rentables, car la formule est souvent au même prix pour les enfants, qui mangent bien moins qu'un adulte ayant jeûné toute la semaine pour s'y exploser le bide. Certains restaurateurs font même exprès de couper la clim, sachant que, quand on a chaud, on a moins envie de manger et on va plutôt choisir des aliments légers, délaissant ainsi la viande qui coûte plus cher. L'emplacement des plats influence le choix des clients, avec les plats les plus rentables situés proches des tables, qui ont ainsi beaucoup plus de chances d'être choisis par la clientèle. Voilà pourquoi on y trouvera toujours des féculents ou des aliments frits qui sont peu coûteux. Évidemment, les viandes les plus chères, comme le canard laqué dans les restaurants asiatiques, sont systématiquement placées le plus loin possible sur le buffet. Lassés par les montagnes d'assiettes encore pleines que les clients laissaient derrière eux, certains restaurants ont mis en place une amende anti-gâchis. Si tu te resserres alors que tu n'as pas terminé ton assiette, on ajoute 1, 2 ou même 5 euros à ton addition finale. Bien fait pour toi, glouton! Dans la plupart des buffets à volonté, les boissons coûtent assez cher pour permettre au restaurateur de faire sa marge. Et il est bon de savoir que dans les restaurants asiatiques, à volonté, certains produits sont toujours surgelés. C'est le cas notamment des nems, le produit le plus consommé dans ces restaurants, et c'est aussi le cas des grosses crevettes pour des raisons évidentes d'approvisionnement. Toutefois, je vous rassure, le fait que ces produits soient surgelés ne veut en aucun cas dire qu'ils ne sont pas bons. Enfin, pour pouvoir servir 300 couverts ou plus, la masse salariale est fortement réduite par rapport à un restaurant traditionnel, ce qui permet aux restaurateurs de faire de grosses économies en raisonnant sur un concept de distribution industrielle de la nourriture. Dans un monde où l'on prend de plus en plus conscience des limites de nos ressources et des impacts environnementaux sur nos choix alimentaires, la surabondance des buffets à volonté pose des questions éthiques importantes. Ne sommes-nous pas en train de répéter à notre manière les erreurs des Romains en célébrant l'excès sans prendre en compte les conséquences ? Alors, que pouvons-nous apprendre de ces parallèles ? Peut-être que la clé réside dans la modération, dans le plaisir de manger sans excès et dans le respect de la nourriture comme un bien précieux. À vous de tester et de vous faire votre propre opinion. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration des excès alimentaires à travers les âges et de votre fidélité à cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. Et d'ici là, profitez bien des bonnes ondes de graffiti. À bientôt.
Réécoutez Tous à table en podcast sur le site graffitiradio.fr, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast entre autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.